La bande du jeudi. La bande du jeudi.
La bande du jeudi enfile son costume de Père Noël. C'est notre dernière émission avant les fêtes. Et en guise de cadeau, on accueille l'attaquant du HC Ajoie, Kylian Motet. Ce sera l'occasion d'évoquer sa longue et riche carrière et de traiter de l'actualité des jaunes et noirs qui viennent de perdre à Fribourg pour leur reprise et qui s'apprêtent à livrer trois nouvelles batailles avant Noël. L'occasion aussi de parler d'une offensive qui peine à semer la pagaille dans les défenses adverses et d'un système pas toujours convaincant.
La bande du jeudi.
Bonsoir, bienvenue dans notre podcast, déjà le dernier pour 2025. Salut Yann, salut Rafi.
Salut Michel.
Salut Michel, salut tout le monde.
Vous êtes en forme messieurs, pour cette dernière ligne droite?
On est en pleine forme, ouais.
Il a un petit peu hésité quand même Yann là.
Ouais, est-ce qu'on est vraiment en forme en cette fin d'année où on a l'impression que chaque année le monde va s'arrêter au 31 décembre, mais non, c'est la course toujours de fin d'année.
C'est à toi qu'il faut le demander aussi, Kylian, en forme après cette défaite à Fribourg là, la rentrée a été bonne quand même?
Bonjour à tous, salut salut. Disons que j'aurais préféré venir faire ce podcast avec une victoire, mais ça va, ça va.
T'es rentré avec le groupe hier ou t'en as profité pour rester à Fribourg?
Non, je suis rentré avec le groupe, ouais, puisque on a un petit entraînement quand même ce matin. Enfin, on devait se présenter à la patinoire, donc je suis rentré avec tout le monde.
La bande du jeudi.
On va peut-être prendre les choses à l'envers puisqu'on est dans la fraîcheur de ce match de Fribourg. 4 défaites cette saison contre le club qui te prête à Ajoie. On imagine que t'es content, vous êtes content d'en avoir fini avec les Dragons.
Ouais, on peut dire ça comme ça. C'est vrai que j'aurais préféré les battre 4 fois dans le meilleur des mondes. Mais après les 3 premières défaites contre eux, c'est vrai que hier c'était la dernière. Donc j'aurais aimé une victoire.
Match particulier peut-être pour toi aussi de retrouver Julien Sprunger pour la dernière fois sur la glace en compétition officielle. Tu nous as dit l'autre jour que tu allais peut-être à la Coupe Spengler, c'est une question qui reste peut-être ouverte, donc c'est peut-être pas forcément la dernière fois néanmoins. Match particulier hier pour toi?
Ouais, très particulier. Je pense que voilà, j'ai une très bonne relation avec Julien et puis au-delà d'être coéquipier, on est devenus des vrais amis et puis de me dire que c'était la dernière fois que je le voyais peut-être en direct sur la glace, c'est vrai que ça fait un petit quelque chose. Voilà, mais comme vous avez dit, on verra pour la Spengler.
Et puis, un petit mot peut-être, on t'a vu longtemps avec Julien en fin de match à discuter les deux. Il t'avait mis dans la confidence, ça fait un moment qu'il l'avait décidé, ou alors ça avait été annoncé en grande pompe pour tout le monde en même temps?
Non, moi j'étais un peu au courant, un peu avant les journalistes pour une fois. Mais non, il me l'avait annoncé il y a quelques temps maintenant. Et puis, il a pris le temps de m'appeler et puis de m'expliquer. Et puis, ça m'a fait très plaisir qu'il me l'annonce comme ça. Et puis, je lui ai juste répondu que... lui demander s'il était vraiment sûr qu'il voulait arrêter parce qu'avec le niveau qu'il a, il pouvait encore jouer, mais sa décision était prise.
On parle de monument du hockey fribourgeois, il y en a un autre qui est avec nous aujourd'hui, on va en profiter pour revenir sur ta carrière. Kylian Kiki, hein, je crois que c'est le surnom que tout le monde à peu près te donne.
Ouais, c'est le surnom qu'on me donne, ouais, effectivement.
Il date depuis longtemps celui-là?
Ouf, ouais, depuis très longtemps. Ouais, j'ai 35 ans bientôt, ça doit faire... j'ai déjà 35 ans bientôt, ouais, ça va.
15 janvier, hein, c'est ça?
15 janvier, ouais. Non, ça doit faire une bonne trentaine d'années, je dirais.
Ouais, né à Fribourg, hein, Kylian, déplacé ensuite de peu hein, du côté de Marly, c'est ça?
Ouais, effectivement, exactement. Je suis né en basse ville de Fribourg et puis toute ma scolarité a été faite à Marly. Ouais.
Il y a Fribourg d'un côté, il y a le hockey de l'autre, les deux ensemble évidemment aussi, mais le hockey dans la famille Motet, c'est quelque chose. Hein. Je crois que tes parents se sont rencontrés d'ailleurs dans une patinoire, hein, c'est juste?
Ouais, alors ça, je ne sais plus exactement, mais effectivement, mon père jouait avec Fribourg quand ils sont montés en Liga. Et puis voilà, ensuite mon grand frère a fait du hockey, a joué jusqu'en junior. Et puis j'étais un peu le petit frère qui voulait un peu copier le grand. Et puis j'étais au goal par contre avec mon frère.
Parce que c'est ce que j'ai lu, je crois qu'il te mettait au but parce que t'étais petit, c'est
voilà,
ça?
Voilà, exact. Ouais, j'avais pas trop le choix d'être le gardien. Le hockey a fait partie de notre vie dans la famille.
Quand on cherche un petit peu des portraits que d'autres journalistes ont pu faire sur toi, il y a toujours le mot enfant, patin, roller qui revient, la canne, la patinoire de Marly avec le grand-papa très tôt. Ça a été une passion tout de suite. La fièvre a pris immédiatement.
Ouais, je pense que à la maison déjà on en parlait énormément et puis effectivement avec avec mon grand-papa, on a passé tous les mercredis après-midi d'hiver, c'était à la patinoire de Marly à patiner. Et puis l'été, on allait faire du roller. Donc ouais, c'était vraiment des moments inoubliables pour moi. Et puis des moments partagés avec lui aussi.
Ouais, ton premier fait d'armes, si on peut le dire comme ça, après avoir commencé le hockey, c'est le tournoi Pee-wee, c'est ça, c'était en 2004, sauf erreur. T'en gardes encore un souvenir aujourd'hui, c'est ta première, entre guillemets, grande compétition en tant que hockeyeur qui t'a peut-être créé un destin en quelque sorte.
Ouais, un très, très bon souvenir d'ailleurs avec Benjamin Cohns d'ailleurs, c'était notre gardien. Des très bons souvenirs et puis ouais, de jouer devant autant de personnes à cet âge-là, c'est une expérience de dingue et puis on a envie de continuer.
J'ai aussi lu dans un journal, dans La Liberté, je crois, qui avait fait un portrait sur toi à l'époque, que tu n'étais pas grand fan de l'école, que tu faisais souvent semblant d'être malade pour éviter l'école, c'est vrai ça?
Ouais, effectivement. les devoirs aussi, ce n'était pas ma tasse de thé, on va dire. C'est vrai que j'essayais toujours de un peu d'entourlouper mes parents. J'allais plus chez ma maman que chez mon papa pour essayer de négocier, disons. Mais au final... Je devais quand même faire les devoirs pour aller aux entraînements, donc j'essayais de les faire du mieux que je pouvais.
Et t'as quand même aussi accompli un apprentissage de peintre en bâtiment.
J'ai commencé un apprentissage de peintre en bâtiment et quand j'ai commencé en 2009 pardon avec Fribourg, on m'a un peu fait comprendre que c'était soit le hockey soit la peinture. J'avais 18-19 ans donc.
Le choix était vite fait.
Oui et non, parce qu'au final, maintenant j'en ai 35, mais j'ai pas de papier. Donc voilà, mais non, ça a été, on a réfléchi avec mes parents et puis on s'était donné jusqu'à l'âge de 22 ans pour signer en Ligue nationale et puis. J'ai quitté Ajoie à l'âge de 22 ans en signant en Ligue nationale à Fribourg.
On l'entend dans ton parcours, hein, presque un mot sur deux, c'est papa, maman ou parents. Ils ont joué un rôle primordial dans ta carrière?
Oui, alors bien sûr, je pense que tout hockeyeur a besoin de ses parents. Je pense que c'est un budget déjà, premièrement. C'est du temps, énormément de temps à nous amener, à nous ramener, à venir regarder les matchs. Donc, c'est vraiment... Mais en tout cas, les miens, oui, ils ont fait ça pour les deux en plus, pour mon frère et moi. Donc, vraiment, toujours été là, encore aujourd'hui. Ils habitent à Fribourg, mais ils viennent regarder tous les matchs à Ajoie. Ou même à l'extérieur de temps en temps. Mes parents ont toujours été là et sont toujours là.
Ils sont à l'origine de cette grande carrière, hein, 716 matchs de National League avec celui d'hier, 32 à part en truc, du coup maintenant 684 avec Fribourg. Tu as commencé en Ligue 1, on en a parlé avant, en 2009, c'était alors avec Serge Pelletier à la bande. Il y avait Anna Julot dans le vestiaire à ce moment-là, c'est pas Cohns qui était en Pee-wee, tu te souviens qui c'était, donc, qui était dans
Gaëtan
le vestiaire.
Wazard.
Non, Anna Julot qui, enfin je précise peut-être, un joueur du HCA actuel.
Et puis c'était pas Benjamin. Ah, Damien Tchatcho.
Ouais, c'était Tchatcho, c'était l'autre effectivement qui était avec toi ouais. Dans le vestiaire. Et puis ton premier match, tu t'en souviens? 2009 toujours.
2009 à Davos.
Ouais.
6-2.
Et il y avait aussi un joueur qu'on connaît bien en face de toi là. Contre toi cette fois-ci. Un de tes coachs.
André Sambul.
Ah, Grégory Charoni.
Ouais, Charoni qui était là aussi. Okay. Un certain Mathias Yogi qu'on connaît aussi bien ici.
Ah ouais.
Qui était face à Gauthieron ce soir-là. Et puis il y avait aussi d'anciens Ajoulot, on en a parlé. Hein. Il y avait Leblanc, il y avait Lauper, il y avait Voisard, il y avait Birbaume aussi dans cette équipe-là de Gauthieron. Tu t'as guéri à ce moment-là un petit peu aussi en Ligue B, dès 2009-2010, avec Sierre, avec Lausanne aussi. Et puis à Port-en-Truy, 2012-2013, c'était avec Yann Tlacil. Hein. 60 points en 50 matchs de saison régulière cette saison-là. Ajoie qui gagne l'exercice régulier, mais qui perd ensuite en demi-finale contre Lausanne. Il y avait notamment dans l'équipe lausannoise Florian Cohns et puis un autre, allez, c'est un peu mes questions, un autre de tes coéquipiers actuels avec le grand Lausanne de l'époque.
Yannick Fischer,
exactement. Et puis tu reviens la saison d'après à Port-en-Truy en disputant 7 matchs 2013-2014. Donc on est là en licence B. Là tu y rencontres des coéquipiers actuels. Je vais arrêter, je vais te donner les réponses tout de suite. C'est Kevin Fay et Reto Schmutz qui étaient déjà dans le vestiaire. À ce moment-là.
Je les avais.
T'as fait tout le contingent là.
On a presque une équipe complète, effectivement. Et puis, on a parlé de ton premier match, ton premier but, tu t'en souviens aussi, en National League, enfin en Liga de l'époque.
À la maison, enfin à Fribourg, contre Genève, 28 septembre, 26, 28
28, ouais. 28 septembre 2013. assist d'un ancien Ajoulot, Martinez d'ailleurs, pour la petite histoire, effectivement, d'un Gauthieron entraîné à ce moment-là par Hans Kossmann. Ta carrière, elle est énorme, on en a parlé. Tu as un peu tout fait ce qu'un joueur suisse peut faire, en tout cas en Suisse, parce que tu n'es jamais parti à l'étranger. Ça a été un choix, ça ? Il y a un moment donné où tu as dû choisir ?
Non. Toutes les classes juniors, j'ai jamais été vraiment en équipe nationale. Jamais fait de championnat du monde moins de 20, moins de 18, tout ça. Donc, pas vraiment eu l'opportunité. Je pense qu'à ma génération aussi, c'était un peu moins à la mode que maintenant, que de partir à 15, 16, 17 ans en Suède, en Finlande. Donc, jamais vraiment eu l'opportunité. Et puis, j'étais très bien à Fribourg dans le mouvement junior. Donc, je me sentais très bien là où j'étais.
Et quand je dis que tu as fait quasiment ce que un joueur suisse peut faire au plus, hein, il y a la Liga, bien sûr, la Coupe de Suisse, Ligue des Champions, Coupe Spengler, les JO, les championnats du monde. Quand tu regardes dans le rétroviseur, c'est quand même une sacrée carrière.
Ouais, belle carrière quand même, ouais. C'est vrai que des fois, peut-être que je l'oublie, que j'ai une aussi belle carrière et puis que j'ai accompli tout ça. Je suis pas la personne qui a le plus confiance en moi non plus et puis qui veut me vanter d'avoir fait tout ça, mais c'est vrai que quand on regarde derrière, je pense que si on m'avait dit que je faisais tout ça quand je suis parti d'Ajoie à 22 ans, c'est pas sûr que je l'aurais cru.
J'ai remarqué en quelques minutes là que t'es quelqu'un qui se remémore bien des dates. Si je te parle du 15 février 2022, j'imagine que c'est une date qui te parle.
Quand j'ai marqué aux Jeux Olympiques.
Ouais, c'est ça. Ça, c'est le plus grand souvenir de ta carrière.
Ouais. Non, c'est... les Jeux Olympiques en eux-mêmes, en fait, c'est une expérience déjà incroyable. Et puis en plus, c'était pas tout beau tout rose pour moi. Je suis arrivé, ils savaient pas trop si j'étais positif ou pas au Covid. Donc j'ai dû rester plus de 24 heures dans une chambre tout seul. On venait m'amener à manger, je devais faire des tests, je vous explique pas comment. Et puis après, on m'a dit que c'était tout bon. Et puis du coup, c'est vrai que... J'étais peut-être pas censé vraiment jouer à ces Jeux Olympiques. Et puis, deux joueurs ont été vraiment testés positifs et ont dû, entre guillemets, partir un peu de l'équipe. Donc, j'ai eu cette chance-là de jouer. Et puis, j'ai pris ma chance. Et puis oui, ce goal-là, je me souviens encore. Et puis, je m'en souviendrai encore longtemps de ce beau moment.
C'était un match important. Hein. C'était la sorte de huitième de finale, en quelque sorte, contre les Tchèques. Hein. La Suisse gagne 4-2, hein, c'est ça, tu marques le 2-1, et puis après, vous perdez en quart de finale contre la Finlande. C'est ma dernière question, Chante, je te promets. Il y a un joueur finlandais que tu
Niklas
connais bien,
Freeman,
Niklas Freeman, ouais, effectivement.
Champion olympique, oui.
Fini champion
et d'ailleurs,
olympique,
j'ai marqué contre le gardien de Zurich, Rubec.
Exactement, ouais, voilà. On en a fini avec les références. Une fois qu'on a entendu tout ça, Kylian, il y a une question qui nous vient en tête quand même. Qu'est-ce que tu veux encore accomplir ?
Disons, personnellement, jouer le plus longtemps possible, être en santé. Et puis après, le reste, c'est clair que le rêve ultime, c'est de gagner un titre de champion. Après, on verra. Tout le monde sait que je suis prêté aussi une année ici. Donc après, on verra pour la suite. Mais c'est vrai que le rêve ultime, c'est de gagner un titre de champion suisse. Parce que là, Spengler, du coup, je l'ai eu.
Et du coup, plutôt retourner à Fribourg, si on t'entend bien. Il y a quand même plus de sens que le titre soit à Fribourg qu'à Porrentruy.
Non, sans blague.
Ça m'embête de dire ça, mais oui. C'est vrai que il y a plus de chance à Fribourg qu'à Ajoie. Mais après, c'est pas sûr que je retourne à Fribourg non plus. C'est pas moi qui ai les cartes en main pour ça. Donc, on verra en temps voulu.
À chaud, comme ça, tu te verrais continuer à Porrentruy. C'est un rythme de vie que tu as trouvé qui peut te convenir quand même, malgré, on le sait, ta famille qui est sur Fribourg.
Oui, je pourrais, pour le hockey, oui. Après, c'est vrai que pour la vie de famille, c'est compliqué, ça c'est sûr. Donc, faudra vraiment discuter aussi avec ma femme. Et puis on verra, comme je me répète souvent, mais je ne sais pas demain ce que je fais. Demain, je sais, en l'occurrence, on a un match, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc je ne sais vraiment pas qu'est-ce qui va m'arriver. Donc, mais après, oui, je me verrai bien continuer ici, oui.
Parce que les liens sont guillemets rompus avec Fribourg, mais t'as des contacts réguliers avec le directeur sportif, avec le club, où t'es un petit peu, t'es OHC Ajoie, un petit peu...
Non, alors avec Fribourg, c'est, j'ai des contacts avec les joueurs, parce que c'est des amis, mais sinon, bah, comme hier par exemple, j'ai croisé David Ebichère, alors on parle comme ça, mais sinon non, pas plus de contacts que ça. Et puis j'appartiens au HCA pour la saison 25-26, et puis voilà.
Michel a évoqué là, peut-être la possibilité pour toi de jouer la Coupe Spengler, c'est d'actualité ou bien?
Oui, c'est d'actualité, j'attends la réponse entre aujourd'hui et demain.
Ok, donc, d'accord.
Donc on verra, c'est une fois de plus pas moi qui décide, donc on verra.
On parlait de ton rythme de vie, explique-le-nous un petit peu en quelques mots comme ça, comment est-ce que tu arrives à te multiplier en quelque sorte entre Porrentruy et ta vie professionnelle de hockeyeur et ta vie familiale qui est plutôt du côté de Fribourg. Et c'est quelque chose qui t'a pesé hein, en début de saison, tu nous le disais à l'interview dernièrement. Hein.
Ouais, c'est quelque chose qui pèse, disons que de on va dire de 8h le matin à midi et demi, je suis 100% hockeyeur. Le lundi, mardi, mercredi, le reste de la journée, les mardis en général on joue, mais le lundi, mercredi, je suis un peu plus seul à la maison. Et pour le reste de la semaine, ma femme me rejoint avec le petit. Donc mercredi après-midi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, on essaie de passer des moments ensemble. Après, les vendredis, samedi, quand on a les matchs, je profite un peu du petit, mais pas plus que ça. Et puis, c'est vraiment les mercredis, jeudi après-midi et dimanche où là j'essaie de profiter un max. Et puis, les jours de congé qu'on a, j'essaie de rentrer aussi à Fribourg pour pas que ce soit ma femme qui fasse aussi tous les trajets non plus. Donc voilà, j'essaie de m'adapter. Et une fois de plus, quand je dis que je vis semaine par semaine, c'est vraiment... ça dépend où on joue, ça dépend quand, si on joue mercredi, vendredi, samedi, si on joue mardi, jeudi, samedi, ça dépend tout, où qu'on commande. Donc on prend vraiment semaine par semaine et puis on s'adapte comme ça. Mais j'essaie d'être un maximum aussi là pour le petit et ma femme.
Quel regard tu portes sur toi, sur ton début de saison, la prestation que tu as avec le HC Ajoie? Est-ce que tu es satisfait de ce début de parcours avec le HC Ajoie?
Non, pas satisfait. Je pense qu'il faut être honnête. J'aurais aimé amener beaucoup plus. Après, c'était un gros changement quand même pour moi. Déjà, changement de club, devenir papa pour la première fois. Maintenant, ça fait 2 ans qu'on a construit une maison donc, à Fribourg. Donc, revenir ici, enfin, revenir à Porrentruy, ne pas être tout le temps avec ma femme. Donc, c'était un gros, gros changement. Et puis, voilà, sur la glace aussi, apprendre à connaître des nouvelles têtes, à connaître des nouveaux gens, des nouvelles personnalités. Nouveau coach aussi, donc tout est vraiment nouveau. Et puis c'est vrai que depuis que j'étais arrivé à Ajoie il y a 12-13 ans maintenant, ça ne m'était jamais vraiment arrivé. Quand je rentrais dans le vestiaire à Fribourg, je connaissais tout le monde. Puis c'était plus les nouveaux qui venaient vers moi se présenter. Tandis que là, c'est totalement une nouvelle aventure. Et puis voilà, avec, comme je disais, avec les déplacements et tout, c'est vrai que c'était pas facile au début, mais je pense que j'essaie de m'adapter au mieux et puis de donner le maximum chaque fois.
Tu le dis, t'es pas satisfait de tes performances de ce début de saison avec le HC Ajoie. Qu'est-ce qui manque chez toi? C'est que tu peux plus de la confiance au niveau physique, tu te sens encore à 100% de tes moyens? Comment tu vois ça?
Non, je pense que c'est plus au niveau de la confiance. Je pense que tout le monde sait la saison que j'ai eue la saison passée. J'ai quand même un peu morflé, faut l'avouer. Donc reprendre cette confiance en soi et puis déjà de se prouver à soi-même que t'es capable de jouer au hockey. Et puis ça vient pas comme ça juste en claquant des doigts. Donc voilà, c'est je pense le point numéro un sur mon début de saison aussi.
Tu t'es mis de la pression aussi. On sait qu'Ajoie a beaucoup fait pour t'avoir à Porrentruy. Ça te pèse sur les épaules ça?
Le fait qu'ils me veuillent autant comme ça, oui, ça met une pression, mais c'est plus, je pense, moi qui me mets énormément de pression et beaucoup trop de pression. Et ça fait, je sais pas combien de temps de carrière maintenant, 15 ans. Et ça fait 15 ans que c'est comme ça. C'est un gros souci pour moi. Je me mets beaucoup, beaucoup trop de pression au lieu de lâcher prise et puis de juste jouer OK, parce qu'au final, c'est qu'un jeu. Mais ouais, je me mets énormément de pression.
Le débrief.
Exercice pas facile que celui d'attribuer des étoiles et des épines après un seul match, le match d'hier soir donc contre Fribourg. Mais il a fallu, j'ai voulu jouer le jeu que la bande du jeudi avait instauré en donnant ses étoiles et cette épine. Donc On va pas non plus faire trop longtemps avec ça, vu qu'on se base uniquement sur un match. Mais les trois étoiles, ben, je les donne à Anthony Onka. Il a été élu joueur du match, donc ça doit être le meilleur joueur. Donc effectivement, trois étoiles pour lui. Il a fait du Onka hier soir. Je crois qu'il a été assez virevoltant. On le voit des fois un peu plus discret hier soir. Il a quand même donné de sa personne. Malheureusement, sans trop de réussite offensive, mais quand même un bon match de sa part hier soir. Je ne sais pas ce que vous pensez.
Ouais, alors tu dis élu homme du match. D'ailleurs, moi j'aimerais juste signaler que ça fait longtemps que je suis dans les patinoires. Actuellement, je ne sais pas qui décerne le prix des meilleurs joueurs des matchs. En tout cas, c'est pas les médias. Hein,
hier soir, un confrère de Radio Fribourg a dit, à titre humoristique, que Sprunger allait tous les prendre jusqu'à la fin de sa carrière. Donc c'est vrai que je ne sais pas non plus qui décerne ces titres.
Non, c'est vrai que c'est une question qu'on se pose souvent à tribune de presse. La tradition voulait, en tout cas avant, que ce soit les journalistes qui votent pour les meilleurs joueurs de chaque équipe. Ouais, puis c'est vrai que déjà cette saison passée, déjà, ça a commencé à disparaître, cette habitude.
Ouais, ça fait un moment.
Donc, je pensais que c'était les journalistes jusqu'à aujourd'hui, honnêtement.
C'est jamais bien pourri.
Je tenais à le
vous
préciser.
Vous m'apprenez quelque chose.
Donc voilà, celui qui sait comment les meilleurs joueurs des matchs sont élus, vous pouvez mettre un petit message. Ouais.
Mais pour revenir à ta question, Onka, oui, effectivement, j'ai trouvé aussi un peu... Comme souvent et comme presque tout le temps d'ailleurs, moteur de l'équipe hier, pris beaucoup d'initiatives. Deux assists aussi, sauf erreur pour lui hier, qui remplissent encore un petit peu sa besace. Mais oui, je l'ai senti concerné. Il y a un autre joueur que j'ai trouvé très bon. Je vais attendre de voir ce que tu mentionnes par la suite.
Les deux étoiles, je les ai données à Kevin Fay, essentiellement pour son but. Et puis pour saluer ce premier de la saison depuis son retour. C'est son 8e match hier soir, sauf erreur. Il devient le 18e joueur du HA Jouar marqué cette saison. Donc c'est aussi un peu positif de voir qu'on a quand même beaucoup de joueurs au HA Jouar qui sont capables de mettre au fond. Maintenant, il faut que ça soit un petit peu plus régulier. Et puis Kevin, on sait que c'est aussi un leader de l'équipe, il n'est pas capitaine pour rien. Et puis s'il revient à son meilleur niveau, il doit amener aussi une stabilité défensive qui manque un petit peu ces derniers temps.
Ouais, avec un petit bémol, parce que sur la séquence qui suit le but, il est un petit peu pris de vitesse au deuxième poteau là, par Biasca. Là,
deux défenseurs.
Ce 4-1 qui tombe mal. D'ailleurs, un ami m'a mis un message en me disant mais depuis quand on laisse le buteur sur la glace après un but alors, voilà, quoi.
C'est ce que j'ai dit à mon voisin hier soir. Normalement, j'avais un coach qui disait toujours score a goal, stop a goal. Puis justement, quand tu marques un goal, même si c'est dans les 15-20 premières secondes que tu es sur la glace, tu changes ta ligne pour mettre une autre ligne justement pour pas la laisser sur la glace. Mais ouais, là, les deux défenseurs sont bien fait prendre de vitesse par deux bons patineurs, Berchi et Biasca, là, qui se sont donnés à
ça.
Ça va vite, hein, ouais.
Ça va assez vite.
Ils sont pas trop rapides.
En marche avant, ils vont plus vite quand même que nous en arrière. Hein.
Mais après, pour revenir pour Kevin Fay, c'est ce qu'on dit depuis déjà quelques temps. Pour marquer des buts, il faut amener des shoots au but. Et puis voilà, il a montré la voie. Il faut aller avec ses rondelles en direction du but adverse, ouais, comme il a su le faire.
On en parlera peut-être après, mais c'est vrai un regret qu'on peut avoir hier. Parce que quand on voit les deux buts qu'a joué Marc, c'est deux tirs lointains dans le trafic, dans la jungle, entre guillemets, puis aller se faire mal là au milieu. Et à mon sens, il y en a quand même vraiment trop peu de ces tirs-là. Ben, peut-être ton regard à toi, Kiki, parce que d'ailleurs, il y a un auditeur qui nous a demandé pourquoi tu tirais pas plus au but. Donc ça rejoint un petit peu ce dont on vient de parler.
J'étais pas prêt, j'étais encore dans les étoiles, moi.
Tu peux commencer général et après on parle de toi.
C'est une très bonne question. C'est vrai qu'il y a eu des saisons ou des matchs où je tirais beaucoup plus. Et puis, c'est peut-être ce qu'on disait avant, la confiance. Peut-être arrêter de me poser des questions et puis juste mettre le puck sur le goal puis voir qu'est-ce qui arrive. Donc je le remercie pour sa question et puis je vais y réfléchir.
on peut l'imputer à la confiance. Moi j'ai une image aussi hier de Johnny là qui est en bonne position, qui se retourne pour mettre un centre à l'aveugle pour personne. C'est la confiance vraiment.
Ouais, je pense que c'est vraiment la confiance. Je pense que ça joue. Je pense que tant qu'on n'est pas dans cette situation-là, on peut pas réaliser tout ce que ça peut amener, la confiance. C'est moi qui arrivais depuis le banc quand Johnny a pas tiré, effectivement. Donc je me souviens très bien de la situation. Mais ouais, c'est vrai que la confiance, je pense que ça joue énormément.
Ouais, moi je voulais juste dire, c'est ce qui est un petit peu frappant, c'est par rapport au Kiki Moté de début de saison, qui shootait beaucoup, qui prenait beaucoup d'initiatives. Ces derniers temps, on a l'impression qu'il est entre guillemets un petit peu plus muselé, quoi, quelque part. Voilà, c'est peut-être, non, c'est le mot muselé.
Ouais.
Ouais, voilà. C'est vrai que beaucoup de buts depuis la ligne bleue hier soir. Enfin, les deux buts depuis la ligne bleue. Et puis, c'est vrai que, comme tu l'as dit, il y a eu beaucoup de séquences et qu'on voit le Hachajois hésiter, être en bonne position, avoir le puck en haut du slot ou dans les zones qui font mal. Et puis, on cherche la passe de plus. Puis ça, ben, question de confiance. Ça va tellement vite le hockey qu'on essaye juste, des fois, juste de faire réfléchir une seconde. Et puis, le jeu n'est plus là. Et puis là, après, ben, c'est fini. Pour l'étoile, je vais sortir un peu du cadre habituel parce que j'ai pas forcément trouvé de troisième étoile match. Michel, toi t'avais un autre joueur avant, tu vas nous la dire après. Ouais. Mais pour cette étoile, moi je sors du cadre et puis je vais l'attribuer au U18 top du Hachajois qui cette semaine sont devenus champions romands.
Je sors du cadre.
Mais voilà, je
prends des libertés.
Ouais, je prends des libertés de l'attribuer à c'est le Hachajois quand même à l'académie aux U18 qui vont aller conquérir, j'espère, le titre de champion suisse dans le Master Round, puis peut-être accéder à l'élite l'année prochaine. C'est l'avenir du Hachajois aussi, hein. Et puis quand on a vu justement des Noé Becker, Tom Gurba, qui ont eu leur premier match en National League durant la préparation. J'avais envie de leur mettre une étoile parce que c'est un peu cette semaine. Et puis, comme vous vous êtes pas spécialement mis en évidence hier soir les joueurs du Hachajois, j'en ai profité pour donner une étoile hors du cadre. Mais Michel va nous dire à qui il pensait, lui, pour comme autre joueur qui s'est mis en évidence hier soir.
Moi, je pense à Roman Enghi. Non pas parce qu'il a gagné le seul engagement du HC en première période, rien à voir, mais je l'ai trouvé bien impliqué et j'ai trouvé la quatrième ligne séduisante. C'est un peu pour l'œuvre de la quatrième ligne. Elle s'est beaucoup battue, elle a très bien défendu, surtout en début de match, sur la première ligne de Gauthieron. Et puis, j'ai trouvé Roman vraiment intéressant hier, comme d'ailleurs sur les dernières sorties où il a eu la chance de pouvoir être aligné.
Ouais, t'as raison. La quatrième ligne, dès le premier shift, a montré l'exemple au niveau de l'agressivité. Là, c'était bien avec Roman Enghi aussi qui a fait du bon boulot. Pour revenir au U18, je te taquine, Yann. C'est excellent le travail qui se fait au sein du mouvement junior. Et puis, évidemment, que c'est très important pour le club qu'il y ait un step qui soit fait avec ces U18. Et puis, on leur souhaite vraiment tout de bon pour ce printemps plein de promesses.
Et puis, il fallait bien attribuer une épine. On aurait pu la donner à. J'ai hésité entre la prestation d'Antoine Keller dans les buts, que j'ai pas trouvé aussi rassurant que les dernières fois, un peu malchanceux, soit sur le premier but où il dégage le puck avec la canne et puis il la remet directement sur Sorensen. Mais voilà, sans vouloir trop épiloguer et puis développer, je redonne pour la deuxième fois de suite, sauf erreur, l'épine à Pierre-Édouard Belmar pour la pénalité. Un peu con, un peu quand même discutable, parce que le joueur de Fribourg tombe assez facilement, je trouve. Et puis, surtout la perte du puck, et puis l'attitude défensive qui est suivie. Il revient sur le repli défensif, il passe comme un junior devant le joueur avec la canne, sans vraiment s'arrêter. Et puis, ça fait vraiment mal de voir Pierre-Édouard jouer de cette façon-là.
Espérons que le but qui marque son premier de la saison puisse faire un déclic, parce que c'est clairement un des joueurs dont on a besoin à part entrée. Mais je partage, parce que ce match, il a peut-être basculé. Alors certes, Fribourg était supérieur et ça, il n'y a pas grand-chose à dire, mais le match a certainement basculé cette séquence en 1 minute 01, là, où il y a cette pénalité que Fribourg marque, et puis derrière cette erreur de Belmar. Avant cela, Joie était bien dedans, donc pour moi, c'est un petit peu là qu'Ajoie perd le match quand même, et du coup, en grande partie à cause de Belmar.
Oui, c'est clairement le tournant du match hier soir, et puis plus que la perte de puck sur le deuxième but, c'est derrière la manière dont il se fait rhumer là, comme un bleu pour l'équipe de France. Mais Pierre-Édouard Belmar, c'est difficile ces derniers temps.
Et puis on parle de doute, il y a une séquence qui me revient aussi, c'est à 5 contre 4 en fin de match, où il marque d'ailleurs juste après, il y a un mauvais contrôle à la bleue, quelque chose que pour moi est impossible d'un joueur de sa trempe, mais parce qu'il a un talent fou justement, et puis derrière il un mauvais contrôle de puck alors qu'il peut se présenter, qu'il a un boulevard devant lui pour aller adresser un shoot, on voit vraiment que ça fusille dans tous les sens dans sa tête, et puis qu'il ne sait plus quoi faire pour bien faire. Quoi.
Mais c'est asymptomatique un peu du Hachajois, par là, du manque de confiance de Kiki. On voit le manque de confiance de Pierre-Édouard Belmar, de Johnny Hazen. Beaucoup de joueurs quand même qui doivent produire l'offensive. Et puis on peut aussi parler de nos deux Finlandais, Nettinen et puis Turkulainen hier soir, qu'on n'a pas spécialement beaucoup vu.
Qui n'ont plus scoré depuis le match à Kloten. Hein. Ça fait déjà trois matchs.
On va en parler un peu plus tard, mais moi je pense que le Hachajois doit un peu revoir son système de jeu, où c'est que on bride beaucoup les joueurs, et puis On a des joueurs beaucoup arrêtés. Et puis après ça, ben, comment produire de l'offensive quand on passe 30-40 secondes dans sa zone de défense, puis qu'après, ben, il faut aller battre des joueurs de classe mondiale ou de classe vraiment internationale qui jouent comme à Fribourg hier soir. Quand t'as passé 30 secondes à défendre, puis t'es arrêté dans ta zone à faire du box-out, c'est super compliqué après de partir en attaque et puis d'avoir un peu de momentum.
La bande du jeudi.
Yann, on va emboîter le pas sur ce que tu viens de dire, ce système de jeu avec ben voilà, une offensive qui produit globalement très peu ces derniers temps. On l'a vu hein, sur les derniers matchs, les deux Fribourg et puis Genève, il y a peu d'occasions franches et nettes. Il y a ce système que tu pointes déjà du doigt depuis un certain temps et sur lequel tu voulais revenir aujourd'hui.
Ouais, je vais y revenir dessus parce que quand on entendait Greg Haaland en début de saison, son but était de prendre moins de goals. Si on regarde cette année, après 32 matchs, on a 113 buts encaissés. Ça fait une moyenne de 3,53 par match. L'année passée, à la fin de saison, après 52 matchs, on avait pris 188, 3,62. Donc on passe de 3,62 à 3,53. Oui, le résultat, on en reprend un petit peu moins, mais c'est clairement pas suffisant. Donc à un moment donné, je veux bien qu'on s'accroche à un système de jeu, je veux bien qu'on ait des convictions, mais on voit maintenant que ça prétend vraiment tout le jeu du HA. D'ailleurs, ce box-out qu'on a, et puis cette boîte fermée, elle fonctionne pas. Hier soir, le but, le faux but j'ai oublié son nom.
Sandro Schmitt.
Ouais. Sandro Schmitt, là, qui finit à l'extérieur du goal. Il arrive à se présenter dans une position parfaite en haut du slot. Finalement, c'est tout ce qu'on veut pas, mais voilà, ça fonctionne pas. Et puis, on l'a vu plusieurs fois cette saison. Des pucks qui traversent la boîte, des pucks des joueurs qui se retrouvent seuls. J'ai des images encore d'Enzo Corvi, servi par Stransky à Port-Antruy, en plein milieu de ce slot. Le système ne fonctionne pas. Et puis, en dehors du côté défensif, comme je l'ai dit avant, tous les joueurs, on a des joueurs comme Kiki, comme Hazen, comme Sopa, on va prendre Cormier, Robin, les Finlandais. C'est des joueurs qui ont du patin, qui ont de la vitesse. Et puis on l'a vu, les matchs où ça fonctionne au HA Joie, c'est quand le HA Joie patine et puis qu'il met de la pression, qu'on se retrouve avec trois joueurs, F1, F2, F3, des fois même en bas de la zone, pour aller mettre de la pression, on récupère des pucks, puis là on se crée des occasions. La séquence contre Zug, on en a déjà parlé, mais on va encore en reparler, c'était juste de la masterclass du HA Joie, mais on a quand même dominé le FO Zug pendant 8 minutes dans leur zone, parce qu'on était partout sur tous les pucks, on jumpait sur tous les pucks, on mettait de la pression, et puis là les joueurs, tu sens qu'ils ils patinent, ils sont dans le rythme, ils sont vraiment dans le match. Mais quand on est arrêté, il ne se passe plus rien.
Bah, les 10 premières minutes hier, c'est ça aussi. Quoi. On est agressif, on gagne les rondelles vers le haut, on a quelques shoots, et on a surtout le danger qui est loin du goal. Oui,
effectivement, je suis d'accord avec vous. C'est vrai que les 10 premières minutes hier soir étaient bonnes. Après cette pénalité, après 12 minutes quasiment, nous pénalise. Mais c'est vrai que les premières minutes, là, mais ça, c'est quand HA Joie patine. Puis dès qu'on est en train de reculer, d'être arrêté, ben là le match il est fini pour le HA Joie. On l'a vu contre Kloten, on l'a vu contre Ambry, on l'a vu contre beaucoup d'équipes. Dès que le HA Joie recule puis attend les joueurs, pour moi on n'est plus dans le match.
On reste aussi sur une séquence face à trois entre guillemets gros adversaires. On a, c'était deux fois Fribourg, une fois Genève. C'est des équipes solides aussi qui mettent aussi beaucoup de force offensive. Faut trouver cet équilibre aussi entre la percussion offensive en forechecking et puis derrière quand l'équipe adverse prend aussi le HCA d'assaut.
Et tu as utilisé le mot muselé avant, mais c'est vrai que on peut regretter aussi des fois quand même le comportement qui a aiguillé hein, des défenseurs, mais quand on voit le talent de certains joueurs offensifs, même un Berthoud qui nous avait séduit en début de saison avec son apport offensif, mais il faut quand même constater que quand on est dangereux sur la durée, c'était le cas contre Zug, l'exemple est excellent, ou hier en fin de match, alors certes avec des circonstances qui sont ce qu'elles sont, mais c'est quand Unka il est sur la glace aussi, quand il peut amener ce surnombre offensif, quand il a ce support à la bleue qui permet de garder ses pucks vers l'avant, et d'autres sont aussi à par Onka capable de le faire, mais on a trop cette attention, à mon sens, vers ce système et cette volonté de museler le plus possible, de ne pas se faire avoir, et puis ça ne permet pas, à mon avis, d'exprimer suffisamment le talent offensif qu'il y a dans cette équipe. Quoi.
Ouais, je sais pas moi, Kylian, comment tu ressens un petit peu le jeu, mais c'est compliqué. Non, mais on va pas te demander d'analyser le système qui est en place, mais quand tu passes 30 secondes dans ta zone, c'est compliqué d'amener de l'offensive après, d'accord
Robert? Ouais, non, alors ça c'est sûr que quand on se fait dominer après 30-40 secondes,
tu penses juste à bah, tomber, quoi.
Ouais, bah, ça dépend qui est sur ton dos pendant 30-40 secondes. Quand c'est hier soir, Sorensen et compagnie, ben ouais, après tu sors le puck et puis tu fais en sorte d'aller changer parce que t'es foutu, quoi.
D'ailleurs, c'est assez fou hein, quand même de voir que tu dis, ouais, c'est vrai, on a joué Fribourg et puis Genève, des grosses équipes, mais Fribourg cette année, ouais, vous avez connu une mauvaise saison l'année passée. Cette année, il y a eu quelques apports. Et finalement, ceux qui sont là, ceux qui donnent vraiment beaucoup cette année, c'était déjà l'année passée. Tu parles de confiance, des Sorensen,
Il y a un changement de coach à Fribourg.
Hein. Oui, il y a un changement de coach qui fait, bien sûr, ça c'est clair. Mais après, voilà, c'est pas non plus. Les joueurs sont les mêmes sur la glace. Mais c'est vrai que c'est une équipe qui joue super bien. Et puis.
Ultra solide, moi, je trouve, quoi. Défensivement.
Ouais, puis ça, qui marque des buts. Des Biasca, des Schmid, des Larose aussi, qui marquent beaucoup de buts cette année. Mais pour moi, ils jouent un hockey, ils jouent un... Voilà, c'est... on ne va pas comparer les équipes, ce n'est pas les mêmes joueurs, ce n'est pas les mêmes qualités, peut-être, même certainement entre la Chargeau et puis Fribourg. Mais ils jouent un hockey vraiment séduisant. Et puis moi, c'est ce qui me manque des fois au Chargeau, c'est que, quitte à perdre des matchs des fois, j'aimerais autant qu'on une partie de poker, à jouer all-in, à jouer... Je disais qu'il faut trouver l'équilibre, mais parfois j'aimerais bien que l'équilibre soit un peu plus vers l'attaque, quitte à perdre.
Mais tu te contredis un petit peu avec ce que tu dis au début, où tu as pointé la première chose, c'était défensivement, on encaisse autant de buts que la saison passée, tu vois.
Ouais, donc le système, il ne fonctionne pas. Actuellement, on encaisse autant, mais par contre, on ne joue plus. L'année passée, on a vu des séquences de jeu où la joie gardait le puck. Moi, j'avais trouvé justement l'arrivée de Greg Ireland, c'est que on avait passé un step, c'est qu'à joie arriver à conserver le puck, puis à amener de l'offensive, puis arriver en attaque avec le puck. Maintenant, on a quasiment plus ça, quoi. Souvent, des fois, on balance le puck au fond, on essaie d'aller forechecker. Et puis, non, je ne me contredis pas forcément en disant que le système ne fonctionne. Oui, le système ne fonctionne pas, mais pour moi, on doit vraiment plus passer vers l'attaque.
Aussi, parce qu'il y a la colonne vertébrale aussi, c'est les joueurs centres qui sont aussi peut-être moins en forme en ce moment aussi. Et puis, c'est aussi, on peut parler aussi de la production offensive, là aussi. Ça part aussi de ces joueurs-là. On a quand même des joueurs centres qui, en ce moment, ont de la peine.
Avec certains automatismes qui ne sont pas trouvés ou qui ne sont pas pleinement assimilés, quoi.
Contredit aussi en mettant que les centres ne sont pas en forme. Hein, parce qu'avant, on a mis Roman Hengi qui était quand même qui était percutant. Et puis, on a Jérémy Vic qui livre la marchandise à la plupart des matchs. On a De Vos quand même que je trouve qui est quand même assez intéressant. Donc, on a quand même des centres.
Oui, mais offensivement, on regarde les statistiques des joueurs centres par rapport aux autres équipes. Ils sont quand même loin. Hein.
Oui, mais quand tu parles de colonne vertébrale, l'année passée, on s'est souvent plaint qu'on n'avait pas de défenseur capable de donner des premiers pucks. Et puis cette année, ben, on a avec des Gaël Chris, des Bertou, des Anka, des joueurs qui Menous Baumer, qui sont capables de donner des premiers pucks, puis appuyer l'attaque, puis être à 5 en attaque, comme tu l'as dit, c'est super important dans le hockey moderne. Tu dois être 5 en défense, mais tu dois être aussi 5 en attaque. On veut des défenseurs mobiles qui amènent l'offensive également. Donc, on n'a jamais eu autant de défenseurs capables de donner des pucks vers l'attaque, mais on n'a jamais été aussi mauvais dans ce apport offensif.
Dans l'œil de la vouivre.
On va donc finir ce dernier numéro de l'année par notre quiz. En fait, c'est le deuxième quiz de l'émission, vu que Michel nous a déjà concocté un premier quiz dans la première partie.
Pour
là.
Kiki, hein, ouais.
Voilà, Kylian, l'objectif, c'est de parler de la prochaine actualité du HC Ajoie par le biais de quelques questions sympas. Yann Michel, je veux des bonnes réponses cette fois, mais on va laisser un temps d'avance à Kylian. On y va ?
Allons-y.
Alors, on y va. Lausanne, c'est ce vendredi soir à domicile. Ajoie a déjà joué 2 parties face au LHC cette saison. Il n'a jamais été loin des Vaudois. Un revers 2-1 à domicile, c'était le 30 septembre, but de Jérémy Vic pour le HCA. Le 1-1 en powerplay, et un revers 3-2 en prolongation. Et au powerplay, c'était... il y avait la canne de haut d'Anthony Anka qui avait mis Ajoie en boxplay là, durant ce temps additionnel. C'était le 14 novembre dernier. Alors, je vous demande les 2 buteurs du HC Ajoie ce soir-là. 2 sacrés buts d'ailleurs, à Lausanne. C'était pas, il n'y a pas si longtemps, le 14
Robin
novembre.
Robin,
t'as dit
Robin Leblanc.
Robin qui a marqué.
Louis Robin, ouais, ouais. C'était le 2-2, 42e, un magnifique but. Ouais. Et le premier but, le 0-1. Ajoie a gagné 1-0 à Lausanne. Qui a marqué ce premier but ? Fred Gauthier, voilà. Deux joueurs qui sont actuellement blessés
au passage. Un rebond en powerplay, c'est possible ?
C'était pas en powerplay, mais c'était le 1-0, me semble-t-il, là, du côté de Malais. Deuxième question, et la deuxième question, On a déjà la réponse parce qu'on l'a déjà donnée dans cette émission, mais voilà, c'est comme ça.
Donc c'est le plus rapide là qui gagne.
Voilà. Est-ce que vous arrivez à me dire tous les anciens joueurs du HC Ajoie qui ont joué au moins un match officiel avec Lausanne, en commençant par celui qui était sous les ordres d'un certain John Van Boxmeer il y a très longtemps. Alors, les joueurs actuels du HCA qui ont joué au moins un match à Lausanne, on en a discuté, on en a déjà parlé.
Bah, Fischer, du coup.
Fischer, Pedretti,
voilà.
Mottet.
Voilà. Est-ce qu'il y en a encore?
Benji, il a joué, Cons, non? Il n'a pas été prêté par Genève?
Non, je crois pas.
On va vérifier, non, je ne l'ai pas dans ma liste.
Ok, bon, on l'a pas.
Non, c'est tout. J'attendais Valentin Pilet, Louis Robin, mais vous n'êtes pas tombé dedans, c'est bien. On va continuer notre escapade par un tour au Tessin. Vous le savez, lundi c'est Lugano, mardi c'est Ambry. Deux matchs en deux jours, Haute-Gotard. Lugano, on y va pour la troisième question. Quand on pense à Lugano, on pense à Greg Ayerland, Julien Vauclair, Matteo Romanenghi, Petteri Noumelin. Petteri Noumelin, je suis allé voir sur sa fiche Elite Prospect. Vous avez la rubrique Highlights, ça, le palmarès. Il faut aller voir. Après son nom, il y a 16 logos. Donc c'est chaque fois une distinction qu'il a obtenue dans sa carrière. C'est pas mal, hein. 16. J'ai regardé Conor McDavid, c'est 25. Hein. Kikimote, c'est une distinction.
Ah bon? Voilà.
Coupe Spengler 2024.
Ah, ok.
Et Yann Voya, il n'y a rien.
Ah non? La Coupe du Jura, ça compte pas.
Bon, revenons à Noumelin. Je retombe sous mes pattes. Noumelin, question. À combien de Jeux Olympiques a-t-il participé dans toute sa carrière?
4.
3.
3.
Ben, c'est comme toi, Kiki. Une seule participation aux Jeux Olympiques, c'était en 2006 à Turin.
Voilà. Par contre, petite mention à Yann. Kons a bien joué 3 matchs avec Lausanne.
Ah, bien joué. Alors voilà, j'étais pas allé au bout de ma...
Pour une fois que j'ai une réponse, on me la laisse.
Ouais, t'as donné celle-là. Ouais.
Merci Michel, merci avec beaucoup. Plaisir.
Question 4. Depuis Lugano, on monte jusqu'à Ambry. Le match, c'est donc mardi. Je vous demande tout simplement le nom du coach des Levantins, mais aussi les prénoms de ses deux enfants.
Manix Landry, le fils.
Oui.
Éric Landry, le père.
Voilà.
Landry.
C'est ça, Landry. Voilà. le coach à la barre. Et les deux enfants qui jouent donc en première équipe en Bripiota, Manix qu'on connaît, et le petit frère, c'est Lucas Landry.
Ah.
Voilà, c'est quand même particulier d'avoir un coach qui a la tête
de fils. Ouais.
On a déjà vu ça dans le hockey suisse. C'est quand même assez particulier.
Ça me dit rien comme ça, ouais.
Bah, faudra chercher, mais non, ça me dit rien comme ça non plus. Mais...
Ok, on finit par la question 5, parce que exceptionnel cette fois, il y a une cinquième question, hein, c'est pas comme la semaine passée.
Ah, parce qu'il y a 5 questions, mais il fallait me dire, hein. Si on me dit pas les règles du jeu.
Voilà, la Coupe Spengler, Fribourg, tenant du titre, il sera. On aura aussi des joueurs du HCA, combien? Bon, on en a discuté, on sait pas, 2, 3, peut-être 4, on verra, on attend les infos officielles. Ton téléphone, Kiki, il a pas bipé entre temps. Je vous demande les 3 derniers vainqueurs du tournoi Grison, les vainqueurs de la Coupe Spengler 2024, 2023, 2022.
Bon. Bah, Fribourg, tu viens de le dire. Voilà,
ouais. 2024.
Fribourg.
Ambry 2022.
Ouais. Et puis Antes, c'est le Canada qui a perdu. Ils menaient le début du match. Puis après, ils ont perdu en fin de match, non? En finale contre des...
C'est pas les Finlandais?
Non.
C'est les Tchèques, là?
Non.
C'est pas les Tchèques. Non. Donc, non.
Là, c'était Davos. En fait, c'était juste pour vous rappeler que les trois derniers vainqueurs, c'était ces trois Suisses, quoi. 24, 23, 22.
Alors, Davos, j'ai oublié.
Voilà. Bon, question bonus, c'est celle qui est réservée aux auditeurs. Bah, ici, là, on ne joue pas. On va laisser répondre les auditeurs. Lors de notre dernière émission, c'était la semaine passée. Yann, tu étais aux commandes du quiz et tu avais posé une question sur Nénès Aubry. Tu posais la question sur le club qu'il avait fréquenté avant de rejoindre le HC Ajoie en 1974. Et en fait, la réponse était...
Langenthal,
voilà.
C'est Langenthal.
Alors, j'ai le nom du vainqueur, c'est Hervé de Seignelégier. Voilà, qui va remporter.
Ah, ben, il va être content. Il m'a snuelé à la patinoire il y a 2 semaines pour savoir quand c'est qu'il allait gagner la bande du jeudi.
Il participe toujours.
Bravo, Hervé.
Mais c'est tiré au sort,
est-ce
c'est comme
Hervé
ça.
Hervé H.
Oui, c'est
d'accord,
ça. Ouais.
On le salue bien.
Mais son fils, c'est plutôt B, mais.
D'accord. Voilà, bah alors il va gagner avec un cadeau estampillé bande du jeudi qu'on lui remettra prochainement. Question qui concerne cette fois Kylian Mottet. Je vous demande le nombre de buts qu'il a déjà inscrit cette saison. Chiffre arrêté au jeudi 18 décembre. Donc si vous écoutez ce podcast après son doublé de vendredi face à Lausanne, ça compte pas. Donc ce chiffre, c'est le deuxième meilleur rendement en termes de buts au HC Ajoie. Combien de buts a marqué jusqu'à maintenant?
Je sais.
On attend vos réponses directement sur la page consacrée à la botte du jeudi. Sur le site internet de RFJ où vous retrouvez le formulaire. Vous notez votre réponse et vos coordonnées, mais aussi par mail à l'adresse bdj@lqj.ch. Là aussi, la réponse et vos coordonnées. Et on vous donnera le nom du vainqueur dans combien de temps ?
Ou dans un moment, ce sera le 8 janvier.
Le 8 janvier, ouais. D'accord, l'année prochaine.
L'année prochaine, exactement. Ben voilà. Ben merci beaucoup Rafi, merci aussi Yann, évidemment. Merci Kiki d'avoir pris de ton temps.
Merci à vous, merci de l'invitation. Ça a pris du temps avant que je sois là.
Hein. Oui, c'est vrai. Mais tu y as tenu, ça nous a fait plaisir. C'est ouais, même toi qui es revenu à charge.
C'est bon, c'était bon. Merci à vous pour l'invitation, c'était vraiment
merci
cool.
Merci de la visite.
Et ouais. Du coup, bah, bonne suite, bonne semaine encore à venir de match et surtout très belle fête à tout le monde.
Ouais, on ne sait pas si on aura beaucoup de points en plus, mais on aura au moins 3 kilos en plus au mois de janvier quand on va se retrouver. Donc je vous souhaite bonne fête à tous.
Tout bon, hein, bonne fête à tout le monde. Hein, bye bye.
Bonne fête à tout le monde, merci.
La bande du jeudi.